Les yeux de Dieu parcourent la terre et l'univers pour soutenir et pour guérir ce dont le cœur lui appartient. Il entend tes prières, il connaît tes misères, les secrets de ta vie, il t'aime à l'infini. Il a souffert pour toi, la mort à Golgotha, et c'est pour te sauver qu'il est ressuscité. Oh les yeux de Dieu parcourent la terre et l'univers pour soutenir et pour guérir ce dont le cœur lui appartient. Il te donne la foi et reconstruit en toi tout ce qui est détruit. Oh, donne-lui ta vie, mets ta main dans sa main et confiance en demain. Jésus est ton sauveur, voilà le vrai bonheur. Oh, les yeux de Dieu parcourent la terre et l'univers pour soutenir et pour guérir ce dont le cœur lui appartient.
On va prier pour notre frère Manu ce matin, parce que demain matin, cet après-midi déjà, c'est le départ pour Évreux. On va se lever, on va prier pour lui afin que cette opération se passe bien. Amen. Jésus, nous invoquons ton nom sur notre frère Manu, au nom de Jésus-Christ. Nous prions pour que les médecins soient très habiles, que leurs mains soient véritablement dirigées par toi et que cette opération soit un total succès et que notre frère se sente beaucoup mieux. Au nom de Jésus-Christ, tu lui donnes les forces nécessaires pour subir tout cela et que tout se passe bien. Nous le remettons entre tes mains dans le nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen.
Amen. Tu peux vous asseoir. Non, après tout, restez debout. Debout, assis. Je me rappelle, moi je suis protestant de naissance. Et un jour, on est allé avec ma femme chez des amis en Bretagne et on est allé à l'église catholique. Et vous savez, à cette époque-là, maintenant je ne sais pas si c'est toujours pareil, mais à cette époque-là, ils étaient toujours debout, assis, debout, à genoux, debout, assis. Avec ma femme, quand ils étaient assis, on était debout. Quand ils étaient debout, on était à genoux. Enfin, on savait plus, on était complètement à contre-temps tout le temps, à tel point qu'à la fin, on avait presque le fou rire. On était gênés. Mais voilà, on savait pas. Hein. Ça me fait penser à ça, parce que je vous dis assis, debout. C'est vieux, hein, ça date de quoi? Il y a moins 35 ans, cette histoire. On va lire Jean 17, 3 à 6. Jean 17, 3 à 6. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant le monde, avant que le monde soit. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi, tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Amen. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. La vie éternelle consiste donc pour les hommes, les femmes, à connaître Dieu, le Dieu unique, le Dieu d'Israël, le Dieu du monde, le Créateur, le Dieu unique et véritable, celui qui a envoyé Jésus le Christ. Ça, c'est le premier joyau que le disciple reçoit lorsqu'il passe donc dans son deuxième degré. Vous rappelez ce que je vous ai enseigné ces derniers temps. Et personne ne peut lui voler ce joyau. Il peut le perdre, il peut le vilipender, il peut le rayer, il peut l'abîmer, mais enfin, s'il fait attention, s'il le garde, c'est pour lui. C'est Dieu qui lui donne. C'est un joyau, la connaissance de Dieu. Et ce joyau est offert à ceux que Dieu lui-même s'est choisi. C'est ce que nous venons de lire. Dieu, qui est dans et hors de sa création, est venu en Jésus, c'est-à-dire dans la chair, Emmanuel, Dieu avec nous, le seul Dieu unique, Dieu, le Dieu véritable, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le seul vrai Dieu est venu dans la chair. Et Jésus, le Christ, le Messie, Emmanuel, Dieu avec nous, a fait enfin connaître le nom véritable de Dieu. Merci pour ce que tu as dit, Alain, tout à l'heure dans ta prière, dans ton exhortation. Je leur ai fait connaître ton nom. À qui l'a-t-il fait connaître? À ceux que tu m'as donnés. Ou pour être plus clair, des fois quand on est plus clair, alors c'est moins sombre. Il aurait pu dire, et en fait on peut comprendre qu'il a dit, « Je n'ai pas fait connaître ton nom à ceux que tu ne m'as pas donné. » On pourrait dire, « Mais Michel, tout le monde connaît ce nom aujourd'hui ?» Yeshua, Jésus, tout ça, tout le monde connaît. Eh bien non, mes frères et sœurs, non. Parce que connaître le nom, c'est connaître qui est Dieu. C'est connaître son identité. Nul ne peut dire que Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Tout le monde peut dire que Jésus-Christ est Seigneur. Mais que cette parole soit dite en esprit, en vérité, ça ne peut pas être si ce n'est pas inspiré par le Saint-Esprit. Donc, il y a des déclarations qu'on peut faire, des choses qu'on peut croire avec la chair, mais c'est tout autre chose que de les croire, de les déclarer par l'esprit. On peut connaître ce nom par la chair, mais ça sert à rien. Ô Père, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde, aux hommes que tu as retirés du monde pour me les confier. C'est ce qu'on vient de lire. Ces hommes-là, ces femmes aussi, Ils étaient à toi, de toute éternité, nous étions à lui. Et puis nous avons été perdus sur cette terre, mais Dieu a envoyé Jésus le Christ, et il a accompli sa mission, celle de venir nous chercher, celle de nous trouver, de nous parler, de nous sauver, de nous révéler qui est Dieu, de se révéler comme Dieu, comme Père éternel, comme Tout-Puissant, comme l'Alpha, l'Oméga, le premier, le dernier. Amen. Ainsi, nous connaissons le nom du Père et le nom du Fils. La révélation de qui est Jésus, c'est le premier joyau offert à ceux qui lui appartiennent. Notre Père qui est aux cieux n'est pas un Père monstrueux qui a envoyé son Fils, imaginez un peu. Je suis en rogne contre quelqu'un et je dis, bon, il faut absolument que je passe ma colère afin que mon sentiment de justice soit satisfait. Eh bien, je vais envoyer ma fille Mélodie se faire assassiner par une bande de crétins finis. C'est monstrueux. C'est monstrueux, n'est-ce pas? Notre Père qui est aux cieux n'est pas un Père monstrueux qui a envoyé son Fils mourir à notre place afin d'apaiser sa propre colère de Père créateur. Non! Ceux qui croient ça ne connaissent pas Dieu. Or, la vie éternelle, c'est que nous connaissions Dieu. Notre Père qui est aux cieux s'est fait parole dans un premier temps. Et par cette parole, tout a été créé. Et cette parole s'est faite chair et elle est venue mourir à notre place. Alors, cette parole faite chair, c'est Emmanuel, Dieu avec nous. Or, il n'y a qu'un seul Dieu. Il est venu sous une forme humaine. Il s'est abaissé, il est venu sous une forme humaine. Il est le premier-né de la création, c'est-à-dire la première chose que Dieu a faite. Il a parlé, cette parole a tout fait. Et cette parole est en train de tout faire et de tout maintenir en ordre. Et cette parole, à un moment donné, s'est faite chair. Mais c'était toujours Dieu. Dieu n'est pas en dehors de ce qu'il dit. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il est. Sa parole, c'est lui. Voilà la révélation de qui est Dieu. Il est notre Père qui est aux cieux et qui nous aime tant, nous, ses enfants, qu'il s'est transformé en chair, il est devenu humain comme nous, afin d'accomplir sa propre justice, c'est-à-dire la mort que nous méritions à cause de notre rébellion contre lui. Il est venu lui-même. Dieu n'est pas mort à la croix, mais la chair, Jésus, l'homme en qui Dieu résidait pleinement, cette chair-là est morte. Elle est ressuscitée. Comment peut-on dire que Dieu est amour et qu'il a envoyé son Fils? C'est une monstruosité. Si c'est ça l'amour de Dieu, ben j'en veux pas, mes enfants, c'est une horreur. Réfléchissez, osez le dire, osez le penser, osez le concevoir. Cet amour-là, c'est une monstruosité. Si c'est ça l'amour de Dieu, j'en veux pas, merci beaucoup. Non, il n'y a qu'un seul Dieu et il s'est manifesté à nous par Jésus-Christ. Écoutez simplement ce qu'il dit. Il dit, garde-les attachés à ton nom que tu m'as donné. Jésus, cet homme de chair, il a reçu un nom. Ça, c'est le premier joyau qui nous est donné. Emmanuel, le Dieu unique dans la chair. Dieu avec nous a reçu le nom du Père. Cet enfant, il a été dit à Marie, son nom c'est Emmanuel, tu lui donneras le nom de Jésus afin d'accomplir ce qu'a dit le prophète, tu lui donneras le nom d'Emmanuel. Ça veut rien dire cette phrase, si on ne comprend pas que ce petit enfant, c'est Dieu avec nous et son nom c'est le nom de Dieu, c'est-à-dire Jésus. Du Dieu seul et unique. Et ce même prophète qui a dit qu'un enfant nous viendrait au monde, que cet enfant, il l'a dit, on l'appellera Père éternel. Alors, il est le Père ou il est le Fils? Eh bien, il a rempli une fonction de Fils pendant un temps sur cette terre. Il remplit encore une fonction de Fils ou d'agneau, si vous voulez, auprès du Père, pour plaider pour nous. Mais un jour, tout sera remis dans le Père, parce que tout est en Dieu. Il n'y a rien en dehors de Dieu. Voilà le premier joyau. Emmanuel, le Dieu unique dans la chair avec nous, a reçu le nom du Père. Il se nommera Jésus, Matthieu 1, 21. Cet être de chair né de la Vierge portait le nom de Jésus. En cela, il a manifesté sur la terre le nom du Père, c'est-à-dire son identité, l'identité du Père. Connaître le nom du Père, c'est le premier joyau. Si on ne connaît pas Dieu vraiment. Supposons, ça vous arrive jamais, vous rencontrez quelqu'un, vous dites, mince, comment il s'appelle déjà? Vous ne connaissez pas vraiment, si vous ne vous rappelez plus comment il s'appelle. Hein. Connaître le nom du Père, c'est le premier jaillot. Car celui qui connaît que Jésus est le Père, le seul vrai Dieu, connaît comment Dieu aime les siens. Quel est son caractère? Quelle est sa puissance? Alors il connaît sa divinité absolue et il se retire du monde pour le suivre, parce qu'il voit là la plus grande valeur qu'il soit. Il est comme cet homme qui a trouvé un champ. Vous vous rappelez de cette parabole? Je vais vous la lire. C'est dans Matthieu 13, 44. Le règne des cieux est comme un trésor enfoui dans un champ. Un homme le découvre, par hasard. Puis, comme le champ ne lui appartient pas, ah, ça c'est ballot. Il découvre un trésor dans un champ, mais malheureusement, le champ ne lui appartient pas. Ah, ça, c'est bête. Il le cache de nouveau, c'est-à-dire il recache le trésor dans le champ. Il s'en va, débordant de joie, s'empresse de vendre tout ce qu'il possède, et ensuite, il revient acheter le champ. Un vrai Jacob. C'est ça, Dieu aime ça. Il a trouvé le trésor dans un champ, alors il vend tout. Et il achète, non pas le trésor, il peut pas. C'est idiot. Si vous achetez un trésor, c'est que vous avez la valeur du trésor pour acheter. Ça tient pas debout. Mais il veut le trésor. Alors, il sait bien que le champ, il vaut moins cher que le trésor. Mais lui, il sait qu'il y a un trésor caché dedans. Alors, il vend toutes ses babioles, tout son machin, ses frigidaires, ses fauteuils, son appartement, sa maison, ses champs, enfin, tout son chenille, comme on dit en Suisse. Et puis, ben, il achète le champ. Et tout content, il a pu avoir le champ. Et il serre la main du bonhomme qui est très content d'avoir fait une très bonne affaire en vendant son champ. Mais le champ, dedans, il sait, il y a le trésor. Le champ, mes frères et sœurs, c'est le deuxième joyau. Parce que dedans, il y a le trésor. Pour posséder le trésor, il doit acheter le champ dans lequel est le trésor. Vous voyez, je me répète un peu, mais je veux que ça rentre. Or, le champ, c'est la communauté de Jésus, c'est l'Église telle qu'il la veut. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie éternelle, psaume 133. Vous voyez, le premier joyau, c'est Jésus. Le deuxième joyau, c'est l'Église de Jésus-Christ, la communauté de Jésus-Christ. Les religions chrétiennes disent toutes en général, en dehors de l'Église, pas de salut. Elles ont raison. Leur seule erreur, c'est de croire que l'Église de Jésus-Christ est la leur. Non, c'est pas la leur. L'Église de Jésus-Christ, c'est l'Église de Jésus-Christ. L'Église de Jésus-Christ, c'est la sienne. C'est pas la leur. L'Église de Jésus-Christ, la sienne, possède le troisième joyau. On va lire Jean 17, 6, 8. J'ai montré qui tu étais aux hommes que tu as retirés du monde pour me les confier. Ils t'appartenaient, c'est pourquoi tu les as conduits vers moi, tu me les as donnés, ils ont gardé ta parole. Maintenant ils savent que tout ce que tu m'as donné vient vraiment de toi, car je leur ai transmis fidèlement le message que tu m'avais confié. Ils l'ont accepté et compris. Aussi ont-ils reconnu dans leur cœur avec une absolue certitude que je suis venu d'auprès de toi. Ils ont été convaincus que c'est toi qui m'as envoyé et ils ont cru. Gloire à Dieu. 1. Il a montré qui était le Père. 2. Il les a retirés du monde. Nous ne sommes pas de ce monde abominable qui cautionne les abominations, qui les légalise. Nous avons vendu ce que nous avions dans ce monde, nous avons acheté le champ, nous avons payé. Il n'y a rien de gratuit sur la terre. Et nous avons le trésor, le nom de celui qui le porte, Jésus. Et puis nous avons aussi le champ, le deuxième joyau. Parce que le bonhomme, il a acheté le champ et le trésor, mais il a gardé le champ après avoir pris le trésor quand même. Il l'a pas. Il s'en est, hein, c'était à lui. Pensez-vous que le modèle de l'Église que nous avons dans la Bible est le meilleur modèle? Oui. C'est le meilleur modèle. Nous le savons parce que nous avons reconnu dans notre cœur, avec une absolue certitude, voyez, je reprends les mots de Jésus, que le message de Jésus est vrai. Nous l'avons accepté et compris. Oh, comme c'est bizarre cette phrase. Nous l'avons accepté et compris. C'est pas écrit, nous l'avons compris et alors nous l'avons accepté. Non, c'est pas une question de compréhension au départ. C'est d'abord une question d'évidence. Parce que ça sort de Jésus, alors nous l'acceptons. Puis après, on le comprend. Amen. C'est, vous voyez, c'est quand même curieux comme c'est écrit, si on n'y fait pas attention, on passe dessus. Nous ne sommes pas de ce monde, mes frères et sœurs. Nous en avons été retirés par Dieu lui-même. Comment est-ce qu'il a fait? Il l'a fait par le mystère caché du troisième joyau. Ce troisième joyau, c'est l'enseignement de Jésus. Son enseignement, il nous a réveillés, nous nous sommes levés et nous avons osé. Nous avons osé, osé être audacieux, osé être inventif, osé être courageux, osé être novateur. Nous avons osé refonder un nouveau monde selon les ordres et les commandements de Jésus, des apôtres et des prophètes. Alors, le monde peut faire ce qu'il veut. Il peut affamer les peuples. Il peut gaspiller les biens de la planète. Il peut empoisonner l'eau, comme tu dis là. Là, tu nous as rendu un témoignage au sujet des... Ils ont trouvé que c'est extraordinaire. J'ai aussi lu un témoignage de scientifiques qui disent « Les scientifiques ont remarqué que la Lune s'éloigne de la Terre de 3,75 cm par an et les scientifiques ont découvert qu'elle a raison. » Ils peuvent affamer le monde, empoisonner l'eau. Ils peuvent promulguer des lois contraires à l'enseignement des prophètes, des apôtres et de Jésus. On s'en fout! C'est pas notre monde. Vous voyez, mes frères et sœurs, c'est pas notre monde. On s'en fout que toutes... Alors ça, c'est de l'humour. Écoutez, je vais faire de l'humour, c'est lourd un peu. Mais je peux pas m'en empêcher parce que je trouve ça trop drôle. On s'en fout que toutes les 3 secondes, un bout de forêt de la taille d'un terrain de foot soit abattu. On s'en fout parce que de toute façon, ils vont pas s'en sortir simplement parce qu'il y aura pas assez de footballeurs pour jouer sur leur terrain de foot. C'est un peu bête, hein. Mais ils sont en train de détruire tout. C'est ça que je veux faire ressortir. On s'en fout que la technologie dépasse les capacités humaines des gens de ce monde, on s'en fout. Ce monde est en train d'accoucher une génération d'idiots. On s'en fout parce que c'est pas notre monde. C'est pas notre monde. On s'en fout que ce monde hypnotise les gens avec la télé. Connaissez ça? On n'est pas de ce monde. Le monde nous taxe de secte, on s'en fout. Le monde continue dans sa folie, son péché, sa rébellion monte jusqu'aux cieux comme une insulte contre Dieu. On leur dit la vérité, on leur prêche, on les enseigne, on parle, on fait du 1-1, on parle aux foules, on fait des conférences, on écrit des livres, on fait des sites internet. Ils se moquent de nous. Eh bien, qu'ils continuent à faire semblant de croire que le peuple décide le bien, son propre bien, en votant démocratiquement. Qu'ils continuent à faire semblant de croire ça. Hein? Alors que la réalité, c'est que ce sont les banquiers, les agences de notation, les publicitaires, les riches, bref, enfin bon, les puissants, ceux qui vont régulièrement embrasser la bague du pape à Rome. Hein, c'est eux qui décident de mener le monde à sa perte. C'est eux. Et les gens de ce monde ne veulent pas arrêter cette espèce d'hypocrisie. Ils veulent pas arrêter d'être hypocrites. Ils veulent continuer à croire qu'ils sont libres de choisir. Ils sont sous la houlette du dieu argent. Mais c'est pas notre monde. Alors je parlais des 3 points, des 3 degrés. Ça n'a rien à voir avec les francs-maçons, les 3 points. Hein. Les 3 degrés, je vous ai parlé ça, les 3 dernières prédications. Eh bien, eux aussi, ils ont 3 points. 3 points leaders. Voilà leur ordre. Travaille, obéis et consomme. C'est ça? Voilà leur monde. Les puissants qui sont dans l'ombre se sont accaparés les richesses de la planète. Ils ont colonisé les esprits humains. Grâce à la pub, à la télé, à la religion apostate, des beaux discours creux, donc tout le monde sait que c'est faux, c'est de l'hypocrisie, c'est du mensonge. En gros, on peut dire voilà ce que c'est leur système d'action. Ils leur vendent des voitures pour leur permettre d'aller au travail, et ils créent du travail qui leur permette d'acheter des voitures. Voilà, c'est ça. Intelligent, hein. Et c'est nous qui sommes stupides parce qu'on fait partie d'une secte. Et puis on nous bourre le crâne. Ah oui, dans les sectes, on vous bourre le crâne, on vous fait un lavage de cerveau. Ah bon? Mais laissez-nous rire, mais on rit en cachette entre nous, parce qu'on veut quand même pas trop les vexer. C'est pas notre monde. C'est qui se débrouille, c'est pas notre monde. Alors on leur parle de notre monde, on leur explique. Mais comment voulez-vous qu'ils y croient? Pour croire que la communauté de Jésus-Christ est vraie selon Dieu, il leur faudrait le premier joyau. Mais ils ne le veulent pas. Alors ils pleurnichent, ils se plaignent du gouvernement. Ah, c'est toujours la faute du gouvernement. Oui, bien sûr. De leur église, des injustices de ce monde. Hein? Mais alors ils sont des milliards à dire tous ensemble, mais comment voulez-vous que je m'en sorte et que je fasse quelque chose tout seul? On s'en fout, c'est pas notre monde. Mais c'est terrible! Mais faut oser le dire, disons-le! Il faut le dire, c'est comme ça. Ils se permettent bien de se fiche de nous. On peut bien rire aussi un petit peu, de temps en temps. Là, ils pleurnichent, on les écoute, on essaie de les aider. Mais ils nous croient malhonnêtes, ou idiots, ou simplement un peu naïfs, idéalistes. Voilà. ils ne peuvent pas avoir accès au troisième joyau simplement parce qu'ils sont dans leur monde. Simplement parce qu'ils ne possèdent pas le deuxième joyau ni le premier joyau. On n'accède pas au troisième joyau sans avoir passé par le premier et le deuxième. Il y a un ordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Ils n'en veulent pas. Ben, qu'ils se débrouillent. Alors, dans la fausse église, ils veulent consommer. Hein, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire qu'ils sont toujours en train de prier pour recevoir et consommer l'abondance. L'abondance de ceci, l'abondance de cela. Ils veulent, c'est ça en ce moment. C'est le grand truc depuis les années 70. Eh bien, ils ont l'esprit du monde. C'est l'esprit du monde. L'esprit du monde qui crée et qui cherche toujours à créer plus de croissance. Les plus grandes églises, les plus grands programmes, les plus grands ceci, les plus grands... Et ils ne veulent pas voir que leur croissance crée des richesses, c'est vrai, mais que ça crée aussi de la pollution, que ça crée des cancers, que ça crée des dépressions, que ça crée des milliers... Ah oui, alors heureusement, tout cela, ces cancers, ces dépressions, ces malheurs, ces... ça crée des millions d'emplois pour le plus grand bonheur de ceux qui sont les vendeurs d'armes, les vendeurs de médicaments, les vendeurs de cigarettes, les vendeurs de drogue, les vendeurs d'alcool, les vendeurs de divertissement. Ah, ça, c'est pour leur plus grand bonheur. Ils veulent surtout pas que vous soyez vraiment soignés. Juste un petit peu, pas trop quand même. Ça leur rapporterait pas assez d'argent. Ah bon? Vous croyez vraiment que c'est comme ça? Non, je plaisante. Dormez tranquille, ça va. Mes frères, mes sœurs, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous avons les trois joyaux divins, Jésus, la communauté de Jésus et l'enseignement de Jésus. Veillons sur ces joyaux. Apprécions leur valeur éternelle. Apprécions-les. Elles sont saines, elles sont louables, elles sont honorables. Il faut que nous nous détournions de la folie. Dieu nous a retirés de ce monde, n'y retournons pas. Restons fidèles là où Dieu nous a placés. Amen. Maintenant, je vais vous lire un texte. Il n'est pas de moi. Je l'ai mis un peu partout. Il n'est pas de moi. C'est un prophète mormon. Ah, les mormons, c'est une secte. Bon, ben voilà. Bon, ben oui, mais moi aussi, je suis une secte. À moi tout seul. Ma secte, elle se tient dans une cabine téléphonique. C'est, moi, j'ai une secte, je veux ma secte, c'est moi le gourou, elle est fidèle de ma secte. Ma secte. Bon, vous voulez croire que c'est une secte, ben, vous êtes libre. Maintenant, les mormons, écoutez voir. Ça, c'est un prophète mormon qui parle. Écoutez bien. Si vous voulez, je vous donnerai le texte. Il est écrit là, « Jésus-Christ est le chemin. Il est la lumière et la vie, le pain et le vin. » Le commencement est la fin, la résurrection est la vie, le sauveur du monde, la vérité est le chemin. Un seul chemin mène au bonheur et à la plénitude. Il est le chemin. Un autre chemin, tout autre chemin, n'importe quel autre chemin, n'est que folie. Il offre un puits d'eau vive. Soit nous buvons et nous n'aurons plus jamais soif, soit nous refusons de boire et nous continuerons à souffrir sottement de la soif. Il est le pain de vie. Soit nous en mangeons et nous n'aurons plus jamais faim, soit nous refusons d'en manger et nous continuerons sottement à avoir faim. Il est la lumière du monde. Soit nous le suivons et nous verrons clairement, soit nous refusons cette lumière et nous demeurerons sottement aveuglés et dans les ténèbres. Il est la résurrection et la vie. Il a dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Soit nous suivons ce qu'il enseigne et nous serons dans l'abondance, soit nous refusons ce qu'il enseigne et nous resterons sottement une bande de morts. Il est le sauveur du monde. Soit nous acceptons les bénédictions de son expiation et nous sommes lavés de nos péchés et purifiés, rendus dignes de recevoir son Saint-Esprit, soit nous refusons et nous restons sottement seuls et souillés. Il est le chemin. Il a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. La vie est difficile, mais elle est simple. Prenez le bon chemin et ne l'abandonnez jamais, jamais. N'abandonnez jamais. Continuez à avancer, n'abandonnez pas et vous y arriverez. Amen. Alors si ça c'est un prophète d'une secte, j'y cours. Que Dieu bénisse cet homme-là, c'est magnifique. Et que Dieu vous bénisse aussi. Méditez ces choses, méditez ces paroles, corrigez ce qui doit être corrigé et vivez selon l'Esprit. Que Dieu vous bénisse. Amen.